France Inter.
18h22.
France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir à la difficile cohabitation entre les mobilités dites douces et les véhicules motorisés, les incivilités au coin de la rue. Comment les villes tentent de faire un peu plus de place au vélo? Comment certaines mairies verbalisent un peu plus ceux qui, derrière leur guidon, font fi des règles de sécurité? Comment le tout voiture a façonné nos villes et aussi nos comportements au quotidien? Et quel autre choix de société pourrait être envisagé? Eh bien, on va tenter de se répondre ce soir à toutes ces questions. Il y aura aussi la chronique de Corinne Audouin qui nous rappellera comment les automobilistes faisaient déjà bien peu de cas des cyclistes dans les années 70. Une semaine en France, réalisée par Juliette Gout, Frédéric Barrère à la réalisation. Et un grand merci à Benjamin Ducy pour sa précieuse collaboration à la production.
Éric Delvaux, le 18-20.
Tout de suite, un premier témoignage avec vous, Corentin Roudeau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole de l'association Paris en Selle. Le cas de la capitale pour commencer, car ici, là, à Paris, la cohabitation entre vélo et véhicules motorisés est particulièrement sévère, même dangereuse. Aujourd'hui, Corentin Roudeau, comment d'ailleurs qualifiez-vous cette cohabitation dans la capitale?
Eh bien, vous dites que c'est dangereux. Je dirais au contraire que ça se passe de mieux en mieux. Il y a 10 ans, il y avait très peu de conflits, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de pistes cyclables et il n'y avait pas de vélo dans la rue. Depuis, il y a eu un fort développement des aménagements cyclables à Paris. Il y a beaucoup plus de Parisiennes et de Parisiens qui se mettent à la pratique du vélo, multiplié par 2 en 5 ans. Et donc, forcément, il commence à y avoir des conflits. Toutefois, le développement de ces aménagements cyclables, notamment au détriment de la place de la voiture et la réduction de la circulation automobile à Paris, fait que les cyclistes sont de plus en plus en sécurité à Paris. Et c'est aussi pour ça que le nombre de cyclistes augmente.
Les cyclistes de plus en plus en sécurité à Paris. Il y a aussi des cyclistes qui prennent des libertés avec le code de la route. Ils n'ont pas toujours eu l'habitude de se déplacer en milieu urbain sur ces vélos ou sur ces trottinettes. Ça a changé la donne aussi, l'arrivée de ces trottinettes d'ailleurs.
Oui, alors, on constate quand même du mieux depuis l'arrêt des services de trottinettes en libre-service, notamment, maintenant, il n'y a plus que des trottinettes personnelles, des gens qui sont justement plus habitués à la circulation dans Paris. Donc, au niveau des trottinettes, on constate quand même du mieux. Sur les comportements des cyclistes, en effet, comme je le disais, c'est un phénomène nouveau. Il faut un peu de temps pour que tout cela s'ajuste et puis que tout le monde, cycliste comme automobiliste, comme piéton, prenne l'habitude de ces nouvelles mobilités.
Il y a eu le cas à Paris de Paul Varry, ce cycliste écrasé il y a un an par un automobiliste. Et depuis ce drame, la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, a recensé 200 carrefours dangereux dans la capitale. Est-ce que ces carrefours ont commencé à être pris en charge pour les rendre plus sûrs pour les cyclistes?
Oui, il y a eu un gros travail des services de la ville de Paris suite à ce recensement des carrefours dangereux à travers la ville. Alors, évidemment, ça prend un petit peu de temps pour qu'on puisse le voir dans nos rues, mais lors de nos échanges avec la mairie de Paris, nous avons déjà pu voir des projets pour des dizaines de ces carrefours qui devraient être sécurisés dans les prochains mois. Donc, cela avance au rythme des services et de la construction, mais il y a des progrès. Je tiens tout de même à signaler que nous n'avons pas encore eu connaissance de changements dans le carrefour où Paul Varry a été tué. C'est quelque chose qui dépend aussi de la préfecture de police, qui a compétence sur de nombreux axes parisiens. Et donc nous attendons des avancées de la ville de Paris et de la préfecture de police à cet endroit en particulier.
Eh bien merci de ces explications. Je signale aussi qu'il y a des feux XXL qui ont été installés dans le centre de Paris pour être mieux vus des piétons et des cyclistes également. Merci beaucoup Corentin Roudeau, porte-parole de l'association Paris en Selle. La suite d'une semaine en France. Ce soir on va explorer donc la cohabitation entre les bicyclettes et les véhicules motorisés. Je propose de faire la connaissance de Marivonne, dans les Hauts-de-Seine. Marivonne a 77 ans, 50 ans de permis de conduire, elle conduit encore, tous les jours. Sandrine Houdin l'a suivie, micro ouvert, dans sa voiture, de jour comme de nuit, au départ de chez elle, à Châtillon, près de Paris, et vous allez l'entendre, Marivonne monte vite dans les tours, dès qu'elle voit des cyclistes prendre des libertés avec le code de la route.
À peine sorti de son parking, la colère monte.
Là, tenez, en voilà un sur le trottoir. C'est pas normal. C'est interdit, les vélos sur le trottoir. Là, encore un. Mais c'est dingue. Son petit garçon, 4-5 ans, devant, il montre déjà le mauvais exemple à un tout petit. Parce que j'ai été renversé il y a 2 ans et demi. J'ai eu 2 fractures du nez, 1 fracture du tibia. Et depuis, je ne peux plus marcher normalement. C'est quand même un connard de vélo qui roulait sur le trottoir et qui ne s'est même pas arrêté.
Marivonne, on est clair, vous n'êtes pas anti-vélo, quoi.
Non, mais maintenant, je ne le pratiquerai pas. Parce que maintenant, c'est trop dangereux. Encore l'autre jour, là, vous voyez, il y avait un vélo qui était en miettes, qui avait coupé la route d'une voiture. Gardez le poteau. J'ai pas envie de foutre en l'air quelqu'un, même si c'est un abruti. Encore un là. Hop, il est passé quand le feu est rouge. Donc, il coupe. Allez, et qui brûle le feu. Tranquille. Vous l'avez vu?
Ah oui, là, carrément là.
Il ne respecte rien du tout, mais j'en vois sans arrêt. Je parle pas des gars qui heurtent, qui vous arrachent les rétroviseurs. Conduire, maintenant, devient fatigant.
Comparé à avant.
Complètement. Si les vélos sont flashés ou arrêtés, ça irait mieux. Les cyclistes se sentent bien supérieurs aux automobilistes. Ils se croient tout permis.
Tout permis, c'est pas un peu exagéré?
Ah non, vraiment pas.
Par exemple?
Moi, je vais régulièrement à Clamart. Eh ben, en allant à Clamart, brutalement, il y avait un feu. Le feu vient vert pour moi. Je passe. Un vélo me coupe la route en venant sur ma gauche. Allez donc, alors qu'il avait un feu où il devait s'arrêter. C'est scandaleux. Tenez, allez, regardez. Hop là. Vous avez vu si la moto ne s'était pas arrêtée? Mais c'est affreux.
Bon, je crois que je vous laisse parce que là, je suis en train de vous énerver.
Oui, ça monte.
Pause, on se retrouve à 22h30 de nuit.
Vous l'avez vu, le vélo? Même pas éclairé? Alors, je fais des appels de phare pour montrer, mais il a fait du zigzag entre les voitures et il est parti. Ils ont rien, même pas de gilet, on les voit pas.
Là, c'est encore pire.
Ah bah oui. Tenez, encore un. Vous le voyez? Il est pas éclairé, il y a juste un tout petit truc rouge. C'est horripilant. Là, les vélos qui sont dans la voie de bus. Là, il y a une piste cyclable.
Et ça, Marie-Yvonne, c'était pas la même chose avant?
Non. Attendez, je regarde si je peux pas m'arrêter un instant. Voilà.
Mais j'insiste, c'est qu'au départ, ça allait. Et aujourd'hui, non.
Non. Je vous dis que les vélos sont tous pratiquement dangereux.
Eux disent, les automobilistes, ils se croient tout permis. Vous répondez quoi?
Absolument pas. C'est de pire en pire. Quand vous voyez que sur le boulevard périphérique, il m'est arrivé de voir un vélo, vous tombez de votre siège, quoi.
Marie-Yvonne, ça c'est exceptionnel.
Ça c'est exceptionnel, c'est sûr. Mais je dirais pratiquement tous les jours, je vois un vélo qui ne respecte pas la règle. Moi, j'ai vu en Hollande...
C'est le pays du vélo.
Oui, mais ça se passe très bien parce que les gens sont plus respectueux des règles.
En fait, vous, aucun tort. Mais que les vélos.
Pas du tout, madame. Il y a des automobilistes qui conduisent mal. Cependant, vous me parlez de vélo et je me permets quand même de vous dire que j'ai l'habitude de conduire, que j'ai été commercial pendant 40 ans de ma vie. Donc, j'ai fait des dizaines de milliers de kilomètres.
Donc, ça veut dire que vous savez de quoi vous parlez?
Ah oui, je sais de quoi je parle. Je vais être grossière, on vit dans un monde de cons. J'en ai ras-le-bol de ces vélos qui nous ressortent par la peau. Ah, bicyclette, il ferait mieux de les laisser ranger.
Voilà donc pour ces vélos et autres trottinettes qui exaspèrent certains automobilistes, comme Marie-Vonne. Reportage micro ouvert de Sandrine Houdin en région parisienne. Et bonsoir Maxime Boyer.
Bonsoir.
Vous êtes adjoint au maire de Toulouse, en charge de la circulation et des mobilités. Voilà plusieurs mois que la ville de Toulouse a mis en place son code de la rue, censé mieux faire cohabiter donc les piétons, les cyclistes, les trottinettes, les automobilistes quand ils sont là. Depuis février, la phase de verbalisation est d'ailleurs entrée en vigueur. Quel premier bilan en faites-vous à Toulouse ?
En réalité, le code de la rue, pour nous, c'est une manière de rappeler qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité et pas de mobilité sans respect. Parce que la base, c'est d'abord et avant tout de vivre ensemble dans nos déplacements du quotidien. Et qu'est-ce qu'on constate ? Marie-Vonne le disait il y a quelques minutes, que ce soit pour les cyclistes comme pour les autres moyens de déplacement. Moins de tolérance, moins de patience et plus de tension, d'incompréhension, de conflits d'usage, parfois d'agressivité et éventuellement, malheureusement, d'accidents et parfois très graves.
Alors, quelles infractions sanctionnez-vous en priorité donc à Toulouse ?
Le code de la rue, on a eu un gros travail éducation. Prévention, c'est d'abord et avant tout la priorité de rappeler la règle, les préconisations de sécurité routière. On a travaillé avec des associations de sécurité routière en particulier. On a fait ça pendant un an, un gros travail de concertation à l'échelle des quartiers. Et l'idée, c'est de rappeler la règle, de rappeler les règles multiples et variées, de les rendre compréhensibles, de faire en sorte qu'elles soient accessibles à tous. Parce que c'est pas évident aussi, il faut le comprendre, pour les uns et les autres, de comprendre les évolutions réglementaires. Et pendant un an, on a fait ce travail, en mobilisant notamment des médiateurs de rue. Et puis depuis ce début de l'année 2025, on est passé à l'autre phase du code de la rue, c'est-à-dire qu'au-delà de la prévention, quand la prévention ne fonctionne pas, il faut de la répression. Et donc depuis le début de l'année 2025, on verbalise. On a fait à peu près 800 verbalisations sur différents points du territoire toulousain, sur lesquels on a constaté, notamment en lien avec les associations de quartiers, les habitants des différents quartiers de Toulouse, des points où il y avait sur des intersections, sur des aires piétonnes ou autres, des conflits d'usage, de nombreuses remontées de personnes qui se plaignaient, de piétons qui se plaignaient des cyclistes, de passages rapides des trottinettes électriques ou encore des deux roues motorisées ou des véhicules qui ne respectaient pas quelques règles élémentaires. Il faut juste avoir en tête, c'est que le sujet du code de la rue et c'est le sujet de la prévention routière, ça implique l'ensemble de celles et ceux qui se déplacent, quels que soient les modes de déplacement. Et c'est vrai que sur nos grandes métropoles, en particulier Toulouse, on a constaté un accroissement ces dernières années du nombre de cyclistes, du nombre d'usagers de la trottinette. Et donc il faut rappeler les règles pour tous avec une priorité, c'est que le piéton doit être privilégié. La rue, c'est pas un champ de bataille, c'est pas une jungle, c'est pas le droit du plus fort qui doit s'exercer. C'est d'abord et avant tout privilégier les plus vulnérables. Et chez nous, à Toulouse, on considère que les plus vulnérables, ce sont les piétons. Et je crois que c'est assez partagé dans les différentes communes de France.
Et en 15 secondes, parce qu'il nous reste assez peu de temps, est-ce qu'on vous le reproche à Toulouse de verbaliser ainsi les cyclistes ?
Ah, ça râle un peu, ça roumègue un peu, évidemment. Mais pour autant, c'est indispensable. C'est indispensable parce que c'est pour la sécurité de tous.
Merci beaucoup, Maxime Boyer, adjoint au maire de Toulouse, en charge de la circulation et des mobilités, la cohabitation entre les deux roues, les piétons et les véhicules motorisés. On va continuer d'en parler. Rendez-vous dans un instant avec le sociologue Ludovic Bu. Il est 18h35.
I need to talk to you.
voix vieillissante, la belle voix de Robert Finlay, 71 ans, ça vient de la Nouvelle-Orléans. Helping Hand, extrait de son dernier album. Un grand merci à Djoubaka pour la programmation.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France sur les mobilités ce soir, les mobilités douces notamment. On en parle avec vous, Ludovic Bu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste des mobilités, vous êtes auteur du livre intitulé « Tout voiture, on arrête tout et on réfléchit ». C'est paru l'an dernier aux éditions Rue de l'Échiquier. Il y a toute une génération de conducteurs, dont je fais partie d'ailleurs, qui ont passé le permis de conduire à une époque où il n'y avait pas de trottinette sur la chaussée. À l'inverse, il y a aujourd'hui des conducteurs de vélo ou de trottinette qui ne connaissent pas bien les codes de circulation en ville. Comment ces deux mondes aujourd'hui peuvent finir par coexister ?
Ben c'est toute la difficulté, c'est que la cohabitation entre deux visions de la ville, d'un côté aller vite et être efficace, de l'autre cultiver la lenteur, l'échange, les rencontres entre individus, ont toujours eu du mal à cohabiter. Et si on remonte à très loin dans l'histoire, à Rome, dans l'Antiquité, il y avait 1 million d'habitants, et c'était déjà la bagarre, si on en croit les historiens qui décrivent les situations à ce moment-là. Et à l'époque, Rome se traversait plus lentement qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y a le métro qui permet de passer en dessous des embouteillages et des problèmes de cohabitation dans l'espace.
C'est donc le toujours donc, plus vite c'est... qui nous met le nez dans le guidon, c'est ça l'histoire ? Toujours plus vite.
Si j'en crois à la fois mes travaux et mes lectures et ma propre expérience, moi j'habite à Châtellerault, une ville de 30 000 habitants. Les seuls qui klaxonnent et qui veulent qu'on se pousse de la chaussée, ce sont les bagnolards qui n'arrivent pas à passer au fait que les piétons, comme le disait le maire adjoint de Toulouse, sont prioritaires car ils sont les plus vulnérables. C'est pourtant écrit dans le code de la route qui a presque 100 ans. Et les seuls qui klaxonnent, en plus des bagnolards, ce sont les livreurs, ceux à qui on met une pression récurrente pour qu'ils aillent plus vite. Sinon, j'ai grand plaisir régulièrement à échanger des sourires avec les automobilistes qui me laissent la priorité au passage piéton.
Oui, je précise que vous militez, oui, bien sûr, vous militez contre le tout voiture, hein, ce tout voiture qui a façonné non seulement nos villes, et vous le rappeliez, mais aussi nos comportements. Avec votre regard d'écologiste, même la voiture électrique n'a pas de sens à vos yeux au quotidien.
Mais en fait, le problème n'est pas de savoir si ça a du sens ou pas, c'est pas tant la motorisation qui pose la question que la difficile cohabitation dans un espace contraint. Je vais vous donner juste deux chiffres. Nous sommes passés de 40 millions d'habitants dans les années 70 à plus de 66 millions aujourd'hui, et le nombre de voitures est passé de 2,3 millions en 1950 à presque 40 millions aujourd'hui. Or, le territoire de la France, lui, il n'a pas été élargi simultanément.
Il faut donc repenser les zones rurales et périurbaines.
On a de plus en plus de gens qui habitent dans les villes, et en particulier dans les métropoles, et donc l'espace pour chacun se réduit. Et en même temps, on veut aller de plus en plus vite. Donc il y a évidemment une contradiction. La voiture électrique, elle prend toujours autant d'espace, elle va toujours aussi vite. Certes, elle fait moins de bruit, mais elle pose toujours cette question-là. Et donc la question, c'est pas tant que je milite contre la voiture, c'est que je milite contre le tout voiture. Et donc là, effectivement, là encore, comme le disaient vos précédents témoins, la question est comment est-ce qu'on organise les endroits où on peut aller lentement pour que ça soit la lenteur qui soit prioritaire, et les endroits où on doit aller vite, les autoroutes, le périphérique, pour que ça aille vite et que les autres n'y soient pas.
Cet éloge de la lenteur, on l'a un peu vécu durant la période du Covid et de ces confinements. On avait donc redéfini quelques priorités. Que retenez-vous de cette période dans le combat que vous menez aujourd'hui contre le tout voiture, donc ?
Oui, alors le combat est un mot un peu fort, oui. C'est une réflexion que je partage.
Mais je vous le concède.
La seule fois où j'ai combattu, c'est quand 4 automobilistes sont sortis de leur voiture pour me taper dessus, pour que je leur laisse la place sur la route, parce que j'étais avec mon vélo cargo et je les empêchais de passer. Ça, c'était un combat. Le reste du temps, on discute, on participe, on échange.
Sur le Covid, qu'est-ce qu'on a retenu de cette période de confinement ?
Ce qui était très intéressant pendant le confinement, c'est que tout d'un coup, quand on a été limité à 1 km autour de chez nous, plein de gens se sont rendus compte qu'à 1 km autour de chez eux, soit il n'y avait rien et qu'ils étaient complètement dépendants de la voiture pour avoir accès aux services, aux loisirs, à leurs amis, à la santé, etc. Soit au contraire, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de choses. Et malheureusement, on est revenu très très rapidement à nos vieilles habitudes, c'est-à-dire prendre la voiture pour aller faire ses courses à 500 mètres ou au contraire, prendre la voiture pour aller faire ses courses loin alors qu'on pourrait les faire près de là où on est. Je parle des courses comme pour le travail, comme pour tout un tas d'autres choses.
Sauf qu'on s'éloigne de plus en plus, on doit aller travailler plus loin, on doit aller faire ses courses plus loin. Et vous, par exemple, vous n'avez pas de voiture. On va en parler tout à l'heure, justement, de votre expérience personnelle. Vous avez entendu tout à l'heure l'adjoint au maire de Toulouse, il verbalise un peu plus les mauvais comportements des cyclistes dans Toulouse. Ça vous inspire quelques commentaires ?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Marie-Yvonne quand elle dit il y a des gens qui prennent des libertés avec le code de la route, mais il faut juste rappeler deux choses. Le premier, c'est que le code de la route a été instauré à cause des voitures, pas à cause des autres qui arrivaient à cohabiter tant bien que mal et à coups d'engueulade, mais ça fonctionnait. Mmh. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut verbaliser tous les mauvais comportements. Et encore la semaine dernière, je montrais une photo d'une voiture de la police municipale garée sur un trottoir à l'adjoint à la sécurité. Et cette voiture était juste après un virage, et donc elle mettait en danger les piétons. Donc moi, je veux bien qu'on verbalise les vélos, mais il faut se souvenir d'une chose, c'est qui tue qui. C'est pas les cyclistes qui tuent les piétons, ce ne sont pas les cyclistes qui tuent les automobilistes. Ce sont les automobilistes et les camionneurs qui tuent les autres.
Et chacun doit respecter de toute façon le code de la route.
Voilà. Tout le monde doit respecter le code de la route, mais la priorité pour moi, c'est d'où vient le danger.
Oui, qui est le plus vulnérable, effectivement. Ludovic Bue, sociologue, spécialiste en mobilité, vous restez avec nous. J'ai encore une ou deux questions à vous poser. Le temps de me tourner vers vous, Corinne Audouin, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Comme tous les vendredis, on va prendre un peu les chemins de traverse avec vous, avec cette petite rétro du vélo en France, en chanson d'ailleurs et aussi en archives.
On commence dans l'immédiate après-guerre. La France a besoin de légèreté. La bicyclette, c'est François, le facteur de jour de fête de Jacques Tati. C'est les vacances, l'enfance, la campagne.
Hélicoptère.
Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, la bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi, une belle fille au frais minois, la bicyclette.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
Je me balade en vélo, sur les petites routes où il ne vient jamais d'auto. Je ne dérange pas, j'ai tout mon temps, je ne fais pas de bruit, je suis tout petit. Je me balade.
Dans l'ordre, vous aurez reconnu ou pas Bourvil, Yves Montand et Michel Mallory, petit échantillon non exhaustif. Alors parallèlement à cette nostalgie de la flânerie cheveux au vent, les années 70 voient aussi l'éclosion du cycliste rebelle. Mai 68 est passé par là, première manif pro-vélo à Paris en 72. Et attention, ce n'est pas la même poésie.
Les autos ça pue, ça sent la charogne. Les autos ça pue, ça sent la morue. Y'a mon petit vélo qui sent l'autre Cologne, y'a mon petit vélo qui sent la vertu.
Cette manifestation avait pour but de protester contre l'invasion des automobilistes. En tête du cortège, André Dupont, plus connu sous le nom de Mouna, poète, philosophe et hippie, et François Charpentier l'a suivi.
Je dis le monde est mûr, frère, il faut mûrir. Alors par le vélo, le rire, le vélo, du vélo, pas d'auto.
Est-ce que c'est pas plus une mascarade que quelque chose de sérieux ?
Pour moi, non. Ah, pas pour moi.
Exception faite, quelques altercations entre automobilistes et cyclistes, il n'y a pas eu d'incident.
Voilà, quelques altercations déjà, un reportage diffusé sur France Inter.
En 1972.
Absolument. Le cycliste est alors un écolo, avant l'heure, un marginal, à l'ère du tout voiture cher au président Georges Pompidou.
Ça veut dire que dans une grande ville comme Paris, par exemple, il doit y avoir des voies rapides pour traverser Paris, du nord au sud, de l'est en ouest et d'ouest en est, et autour de la grande ville, cela pour l'automobile. Cela veut dire aussi qu'il faut favoriser les transports en commun, taxis et autobus, et par conséquent avoir des règlements qui leur permettent de circuler facilement. Et puis ça veut dire inversement que de même qu'il y a des voies en quelque sorte réservées à l'automobile, il doit y en avoir réservées aux piétons.
Est-ce que vous l'avez noté, Eric, ce qui manque dans le discours présidentiel ?
Une priorité pour les piétons.
Le vélo, il ne parle pas du vélo. Il ne prononce pas le mot.
Ça n'existe pas à l'époque.
Je vous promets que j'ai écouté tout le discours. Alors, malgré le choc pétrolier, la voiture, symbole de liberté individuelle, écrase la concurrence.
Et arrivent les années 90, Corinne, et ce seront les années d'une longue conquête.
Alors d'abord par les villes pionnières, on en a parlé, Lyon, Lille, Grenoble, Strasbourg, qui lorgnent sur l'exemple d'Amsterdam. Là-bas, on met tout le monde à vélo. Même les premiers ministres et les présidents, comme au sommet de 97 à Amsterdam.
Sur le chemin du déjeuner, quelques chefs d'État et de gouvernement, un peu plus sportifs ou simplement un peu plus aventureux que les autres, n'ont donc pas hésité à enfourcher le vélo gris métallisé que venait d'offrir le néerlandais Wim Kok à toutes les personnalités. Lionel Jospin et Tony Blair ont fait la route en tête sur leur monture 7 vitesses, mais la plupart des gouvernants se sont contentés de flatter la structure de métal et de caresser la selle, se gardant bien d'aller au-delà de la photo souvenir. Ainsi Jacques Chirac et Helmut Kohl, quoiqu'une selle spéciale ait été prévue à l'intention du chancelier allemand, ont préféré finir la route comme ils l'avaient commencé, à pied.
Voilà, peut-être plus prudent. Reportage d'Élise Carlin pour Inter. Alors, on s'est depuis habitué à voir par exemple Christiane Taubira arriver à vélo au Conseil des ministres. La bicyclette est désormais un moyen de transport utilisé au quotidien. Et si c'était en fait un retour aux sources, Eric ? Parce qu'en 1900, figurez-vous que les ouvriers, les médecins, les artisans se déplaçaient à vélo, notamment dans Paris. Et les facteurs, bien évidemment.
Évidemment. Dans le rétro des vélos. Merci beaucoup Corinne Oudouin. Ludovic Bu, je me retourne vers vous. Je rappelle, vous êtes sociologue et spécialiste des mobilités. Vous circulez essentiellement à vélo, pas de voiture, si ce n'est que très ponctuellement, je crois, avec des locations ponctuelles. Quel modèle, finalement, défendez-vous ?
L'usage de la voiture quand elle est indispensable et l'usage des mobilités actives quand la voiture ne l'est pas, quand ces mobilités sont plus pertinentes. Vous annonciez tout à l'heure le fait que dans quelques minutes, vous allez discuter de la question de l'obésité.
Oui.
L'obésité automobile avec ses 40 millions de véhicules dont je parlais tout à l'heure, elle entraîne aussi, elle participe de l'obésité des enfants et des personnes adultes qui ne bougent plus assez.
Oui, effectivement.
Et même les personnes âgées, je rencontre, j'ai encore croisé ce matin Monique, 94 ans, qui est toujours à vélo, et qui nous a dit « si vous m'enlevez mon vélo, je meurs ». Eh bien Monique, elle est fine comme tout, parce qu'elle, elle fait du sport tous les jours, depuis toujours. Et donc la question du mode de vie, en fait, il est la question de choisir les bons modes de déplacement face aux bons usages. Et effectivement, je ne suis pas un anti-voiture, d'autant que, je précise, la première entreprise que j'ai créée, c'était une entreprise de covoiturage. Donc vraiment, quand on me caricature comme anti-voiture, je souris. Mais c'est juste qu'il faut l'utiliser à bon escient.
Merci de ce témoignage, Ludovic Bu. Je renvoie à votre livre intitulé « Tout voiture, on arrête tout et on réfléchit ». Le livre est paru l'an dernier aux éditions Rue de l'Échiquier. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre, donc je l'ai fait, à suivre sur France Inter. L'actualité en région, nous irons en Corse, dans le Périgord et en Gironde. À tout de suite donc, et merci d'écouter France Inter, il est 18h50.
Mieux vaut ne penser à rien que de pas penser du tout. Rien, c'est déjà beaucoup. On ne se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien, c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits rires qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
C'est Petit Rien, la chanson de Serge Gainsbourg, revue par Angélique Kidjo. La suite et la fin d'une semaine en France, à la technique ce soir. Mélissa Etroit, Élise Christophe et Gilles Gaillard.
France Inter, le 18-20. Éric Delvaux.
L'actualité en région à présent, l'actualité d'ici et d'ailleurs, avec l'indispensable concours des radios du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI RCFM, ICI Gironde, ICI Périgord, Charlotte Jousserand, Didier Arnoux, Stéphane Paris. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
En Corse, pour commencer, Didier Arnoux, attention à ce crabe bleu qui ravage les étangs de l'île.
Absolument. Le crabe bleu, on va dire, c'est le Terminator des lagunes. Il s'attaque à tout, à tout le monde, aux petits poissons, aux larves, à ses congénères également. Et il s'attaque aussi aux pauvres flamants roses qui se font niaquer les pattes, c'est pas cool. Alors en fait, c'est une véritable teigne, cette bestiole, qui s'est parfaitement adaptée aux eaux corses. Déjà, parce qu'il y a une capacité de reproduction qui est phénoménale. Une femelle peut pondre jusqu'à 1 million d'œufs. Mais aussi grâce à son caractère qui est hyper agressif. Il y a quasiment pas de prédateurs pour cette bestiasse, à part l'homme, à part en tout cas les pêcheurs qui ont sous la main un véritable trésor. Par exemple, au sud de Bastia, la réserve naturelle de l'étang de Bigouli. On pourrait y pêcher, tenez-vous bien, 1 tonne de crabes bleus par jour. Il y a 2 ou 3 pêcheurs qui travaillent dans cet étang et aujourd'hui, ils n'arrivent à sortir qu'une petite centaine de kilos. Alors pourquoi ? Ben, tout simplement parce que ce crabe déchire les filets avec ses pinces géantes et il se balade en plus tout tranquillement le long des berges, limite narquois. Alors, première initiative des pêcheurs qui ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps, ils intensifient la pêche avec des filets spéciaux et des pièges à crabes. L'opération va débuter prochainement pour prélever un max de crabes bleus et pour soulager la faune marine. Alors, de là à dire que le crabe bleu va pulluler sur les étals des pêcheurs, on n'y est pas encore. C'est dommage parce que ce crabe, il est comestible et en plus, c'est même délicieux, comme son nom savant l'indique. Calinectes sapidus, ça veut dire « beau nageur savoureux ». Et c'est aussi pour ça que c'est dommage qu'il ne soit pas davantage pêché.
Didier, vous disiez qu'il n'existe pas de prédateur en Corse à ce crabe bleu ?
Enfin, pas tout à fait. Alors, on sait que les larves de crabes font le bonheur des poulpes, c'est bien. Les crabes adultes, eux, régalent les alligators. Bon, honnêtement, Frédéric, je ne suis pas sûr que ce soit une super idée que de balancer des crocodiles dans les étangs corse pour faire la peau au crabe bleu. Donc, pour l'instant, on va se contenter de le pêcher. C'est plus raisonnable.
Merci Didier Arnoux, RCFM en Corse. En Gironde à présent, Stéphane Paris, les pêcheurs, on parle encore de pêcheurs, mais ceux du bassin d'Arcachon, ils ont de plus en plus de mal à trouver des palourdes.
Oui, la disparition depuis quelques années annoncée de la palourde, un phénomène qui inquiète beaucoup les pêcheurs de coquillages du bassin d'Arcachon. En 5 ans, les stocks ramassés par les pêcheurs ont baissé de moitié. Et difficile encore de savoir exactement quel est le problème de la palourde. Les chercheurs à l'Ifremer pointent quelques pistes pour expliquer la disparition du coquillage. La palourde serait victime du réchauffement climatique lié en partie à l'augmentation de l'activité humaine sur le bassin d'Arcachon, mais aussi de la mauvaise qualité des eaux et enfin d'un coquillage exotique invasif nommé la petite moule asiatique qui se greffe sur la palourde et l'étouffe progressivement. Alors ça fait, vous me direz, beaucoup pour un petit coquillage comme la palourde.
Et pour les pêcheurs professionnels, cette baisse de la ressource, c'est évidemment un gros manque à gagner.
Oui, tous vous disent qu'ils ne pêchent aujourd'hui qu'un dixième de ce qu'ils pourraient ramasser. On est passé de 40 kilos lors des marées à 5 kilos seulement. Beaucoup de pêcheurs sont contraints de changer de métier. Ils étaient une 40aine sur le bassin d'Arcachon il y a 10 ans. Ils ne sont plus que quelques-uns aujourd'hui. Enfin, petit rappel utile concernant la réglementation. Tout le monde a le droit de ramasser des palourdes à marée basse sur le bassin d'Arcachon. Une condition toutefois pour protéger la ressource, ne pas ramasser des coquillages qui mesurent moins de 33 mm de diamètre et pas plus de 3 litres par personne.
Merci Stéphane Paris en Gironde. Nous partons en Dordogne, Charlotte Jousserand, avec une coach de football qui subit les remarques sexistes de l'équipe senior qu'elle entraîne. Eh bien, elle en a marre.
Oui, c'est normal qu'ils perdent, c'est une femme qui les entraîne. Ismery Petit a entendu cette phrase il y a quelques jours pendant un match de 4e division départementale. Elle aurait pu s'emporter, s'énerver, mais elle a souri, car cette phrase sexiste, c'est une de plus parmi toutes celles déjà entendues. La coach périgourdine est habituée au sexisme dans le foot. Elle entraîne les seniors du FC Le Buc Vézère en Dordogne et Ismery Petit est la seule femme du département à coacher une équipe senior d'hommes. Quand elle arrive avec ses joueurs avant un match, elle entend ces phrases lâchées par les autres. « Ah tiens, il n'est pas là, le coach !» ou « Ah, c'est une femme, c'est surprenant !» Dans le foot, Ismery Petit raconte que les femmes, elles existent, mais elles sont là en second rideau, assistante pour la préparation et qu'on en voit peu au poste de président, d'entraîneur ou de manager. Elle s'est formée par curiosité il y a quelques années. Ismery Petit est soutenue au Bug par ses joueurs, par le président de son club qui dénonce sur la page Facebook du club des mentalités coincées au siècle dernier face à une coach compétente, légitime et respectée. La coach de Dordogne sera bientôt reçue à Clairefontaine, à l'Institut National du Football. Elle dit à toutes les femmes qui veulent se lancer dans le foot d'y aller, de prendre la place, parce qu'on ne la leur laissera pas.
Merci à tous les trois. L'actualité en région avec les radios du réseau. Ici, à suivre le journal de 19h.